La revue Durable nous propose dans son numéro 36 de vivre heureux dans les limites écologiques, comme nous l'explique Jacques Mirenovitz.
C'est un dossier très très ambitieux puisqu'il propose une vision alternative à la vision qui domine aujourd'hui, la vision de la société qui domine et qui est dominée elle-même par l'emprise économique et par une conception de la prospérité qui est fondée sur l'accumulation de biens matériels. Cette accumulation elle-même étant gage de croissance économique. Il faut donc trouver les moyens de créer un système économique qui nous permet de nous épanouir sans forcément reposer sur cette croissance économique qui nous emmène aujourd'hui dans le mur. Donc vous voyez, c'est extrêmement ambitieux et bien sûr, on n'a pas fait ça tout seul. On a fait ça en nous appuyant en particulier sur un rapport à notre avis, qui devrait faire date, dont on a traduit quelques passages clés, quelques chapitres clés.
De Tim Jackson.
Voilà, de Tim Jackson, qui a été publié donc au Royaume-Uni en mars 2009, et qui va, dans quelques semaines, si tout va bien, paraître sous forme de livre, traduit en français aussi. Donc là, on a un petit peu la primeur, et tout le dossier s'articule autour du travail de ce Tim Jackson. La première chose qui est tout à fait remarquable dans le travail qu'il a fait, il l'a fait en tant que commissaire au développement durable au Royaume-Uni, donc c'est le fruit d'un travail collectif extrêmement rigoureux, mené sans doute sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. La grande compétence de Tim Jackson, c'est que justement, il a plusieurs compétences, et il a fait là une formidable synthèse qui réunit des éléments de philosophie politique et morale, de réflexion sur le mode de vie, puis c'est un spécialiste des modes de vie durables. C'est un bon connaisseur de la sociologie de la consommation, qu'on mentionnait tout à l'heure. Il est capable d'affronter toutes les difficultés techniques de la théorie économique. Et bien sûr, il a aussi intégré à sa réflexion et à sa synthèse les apports des sciences de l'environnement, hein, parce que c'est elles qui nous disent que le mode de développement actuel n'est pas durable. Ce qu'il nous propose, c'est pas seulement un moyen de faire face aux enjeux écologiques, c'est aussi de montrer qu'il faut qu'on crée une prospérité qui crée beaucoup plus d'égalité et de répartition que le fait aujourd'hui la croissance économique. Et peut-être plus fondamental encore, on sait que dans les pays qui ont déjà acquis un certain niveau de prospérité matérielle, un surcroît de croissance économique n'augmente absolument pas le bonheur et le bien-être des populations. Alors ça, c'est particulièrement fondamental. On est dépendant d'un système qui détruit l'environnement, qui n'augmente pas du tout la cohésion sociale, qui ne permet pas du tout de résoudre la question du chômage. Et tout ça, pourquoi ? Pour stagner sur le plan du bien-être et de l'équilibre psychique finalement des gens. Cette croissance alternative, elle repose sur une reconsidération justement de ce que devrait être la prospérité. Et en fait, si on remonte très loin comme il le fait, on sait très bien que la prospérité, elle dépend pas seulement du bien-être matériel, qui est nécessaire, on ne le discute pas, c'est un fait, hein. Il faut être capable de manger à sa faim, d'avoir un toit. Toute l'actualité nous montre à quel point c'est dramatique de ne pas avoir de toit où dormir, de pas avoir suffisamment à manger. Mais dans nos sociétés, ça, c'est normalement, ça devrait être un fait acquis. Par contre, ce qui n'est pas du tout acquis, c'est les aspirations, la dimension sociale de nos aspirations. Hein. C'est la question, toute la question des libertés, de l'accès aux soins, avoir un travail, avoir une place dans la société et être capable de s'y épanouir. Toute la problématique de la prospérité devrait s'interroger premièrement sur ces questions-là aujourd'hui.
Alors qu'aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, il y a une réelle emprise économique. Et d'ailleurs, l'indicateur phare sur lequel on se base actuellement étant le PIB, qui au final ne rend pas vraiment compte de l'état de la société dans sa globalité. Est-ce qu'il y aurait donc des alternatives à cet indicateur? Est-ce que vous voulez
Alors absolument,
présenter?
Oui, absolument. Et c'est peut-être ça le point fort et le point phare du dossier qu'on a fait grâce à la synthèse de Tim Jackson. Le PIB, il est critiqué. On sait qu'il est défaillant, qu'il est lacunaire, qui ne représente absolument pas une vision globale du progrès. On le sait depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il est critiqué et ça fait au moins maintenant une bonne vingtaine d'années qu'on a des indicateurs alternatifs sur le plan social, sur le plan du développement avec l'indicateur de développement humain, hein, qui a été mis au point par le PNUD au début des années 90. Et évidemment, sur le plan écologique, on a aujourd'hui un indicateur qui n'est pas complètement satisfaisant, mais qui donne tout de même une bonne indication de ce qu'on fait à l'environnement, qui est l'empreinte écologique. Les critiques, elles sont connues. Les failles, elles sont connues. Les indicateurs alternatifs, on les a. Ce qui manque, c'est une vision, encore une fois, de l'horizon qu'on souhaite donner à nos sociétés, une vision économique alternative qui nous permettrait de mettre en avant ces indicateurs et de reléguer le PIB, en tout cas de l'enlever du piédestal sur lequel il est aujourd'hui placé par tous les observateurs, les commentateurs, les politiques, les journalistes qui regardent l'évolution, et évidemment au premier chef des économistes qui regardent l'évolution de la société.
Donc justement, en parlant d'indicateurs alternatifs, vous allez donner aussi la parole à Nick Marx, qui lui a conçu l'indice de la planète heureuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Un indicateur, c'est pas quelque chose de totalement précis, il n'y a pas quelque chose là qui est irréprochable. Un indicateur synthétique tel que l'indice de la planète heureuse, ça donne une vision. Qu'est-ce que nous dit cet indicateur ? Est-ce qu'on peut s'épanouir et à quel coût pour l'environnement ? Quand on regarde ça, on s'aperçoit que l'Amérique latine arrive fortement bien placée. Alors le niveau de développement n'est pas aussi avancé que dans les pays très industrialisés d'Amérique du Nord et d'Europe, mais il est déjà non négligeable et surtout il se fait beaucoup mieux dans les limites des équilibres des écosystèmes dont l'humanité dépend.
Ce sont quelques-uns des gros sujets qui vont être abordés dans ce numéro 36 de la revue Durable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site web et où trouver le magazine ?
Le site de la revue, c'est www.larevuedurable.com. Et là, vous avez accès, si vous cliquez sur « Où nous trouver », à tous les points de vente, en France en particulier, où la Revue Durable est diffusée, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas diffusée partout. Et si jamais vous ne la trouvez pas, vous pouvez toujours nous contacter, il y a toutes nos coordonnées sur le site.